Bonsoir. La maladie à virus Ebola sévit depuis 2 mois en République démocratique du Congo. 5 provinces sur 26 sont à ce jour touchées par cette épidémie qui a commencé dans la province de l'Ituri. Le gouvernement parle de 2000 personnes touchées confirmées pour au moins 800 décès. Le ministre congolais de la Santé, qui rendait compte à l'Assemblée nationale la semaine dernière, cite la mobilité réduite dans certaines zones touchées et la méconnaissance de la population comme des défis qui gênent l'efficacité définitive de la riposte, tandis que le Conseil national des forums des ONG humanitaires de la RDC, par exemple, dans un récent rapport publié sur Ebola dans le pays, pointe de son côté la propagation de fausses rumeurs, le refus de suivi des contacts et la persistance d'enterrements non sécurisés au sein des communautés parmi les obstacles, et propose la création d'un mécanisme local destiné à financer directement les structures communautaires des zones concernées. Entre-temps, la Banque africaine de développement a annoncé aujourd'hui même, lundi, que la RDC, le Soudan et l'Ouganda recevront comme appui de sa part une enveloppe de 13 millions de dollars américains pour combattre cette épidémie, et la RDC seule aura au moins 11 millions de dollars de cette enveloppe. Que pensez-vous de la riposte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, plus de 2 mois après sa réapparition? C'est le débat de ce soir, et pour en parler, nous serons avec Dr Pierre Akilimali, Incident Manager adjoint de la riposte contre la maladie à virus Ebola en RDC. Pierre Akilimali, bonsoir.
Bonsoir.
Mais aussi, dans le casting de ce soir, docteur Jean-Paul Ngabutsunde, dans les studios de Radio Capi ce soir, député national élu de Djougou dans la province de l'Ituri, ancien médecin chef de zone de santé des Bambou-Miné, zone de santé située à Djougou dans la province de l'Ituri et une des zones de santé frappées par l'actuelle épidémie. Docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, docteur Michel Mouvoudi, bonsoir.
Bonsoir, cher Donna. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capitaine, monsieur.
Docteur Mouvoudi, vous êtes spécialiste en santé publique et expert principal en santé et chef de projet à la Banque mondiale. Vous êtes également activement participé à la gestion de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola et de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez sans doute depuis plusieurs semaines maintenant, la maladie à virus Ebola touche aujourd'hui 5 provinces de la République démocratique du Congo. Elle avait commencé il y a 2 mois en Ituri. Le gouvernement dit réagir avec détermination contre cette épidémie qui touche le pays pour la 17e fois. Mais en Ituri, par exemple, la société civile crie à l'aggravation de la maladie et réclame une plus grande efficacité. Et c'est un entretien que nous livrent Isaac Raymond et Benjamin Moudoumbi.
Bonsoir Isaac.
Bonsoir Benjamin Moudoumbi.
Isaac, quelle est la situation de l'épidémie à virus Ebola à ces jours en Ituri?
L'épidémie d'Ebola continue de progresser en RDC et particulièrement dans la province de l'Ituri. Selon les dernières données disponibles au 19 juillet, 2267 cas confirmés ont été enregistrés, dont 893 décès. Au total, 444 personnes ont été déclarées guéries, tandis que 722 patients sont actuellement pris en charge ou suivis dans le cadre de la riposte. Sur le terrain, les équipes poursuivent les opérations de surveillance, de prise en charge des malades et de sensibilisation des communautés. Des nouveaux moyens logistiques, notamment des ambulances, ont été déployés afin de renforcer les capacités d'intervention. La semaine dernière, le gouverneur des provinces a réuni les autorités politico-administratives et les chefs coutumiers. Il leur a demandé de s'impliquer davantage dans la sensibilisation des populations au respect des mesures de prévention. Cependant, plusieurs acteurs locaux, dont la coordination de la société de Litori, estiment que l'épidémie est encore loin d'être maîtrisée.
Justement, Isaac, quels sont les principaux défis soulevés par la société civile?
La coordination de la société civile estime que les statistiques officielles ne reflètent pas entièrement la réalité observée sur le terrain. Selon cette structure, plusieurs décès survenus dans les communautés ne seraient pas recensés dans les données officielles. Elle avance les chiffres de 1813 décès communautaires depuis le début de l'épidémie, tout en affirmant que de nombreuses personnes contacts ne sont ni identifiées ni suivies. Autre difficulté évoquée, le faible engagement communautaire que la société civile attribue à l'insuffisance des activités de sensibilisation. Elle affirme que certaines personnes présentant des symptômes continuent de rester à domicile au lieu de se rendre dans les structures de santé. La société civile signale également la saturation de plusieurs centres de traitement d'Ebola ainsi que l'insuffisance des ressources financières destinées au paiement du personnel de santé et au fonctionnement de la riposte.
Cela étant, quelle est la réaction des autorités sanitaires face à ses préoccupations?
Lors d'un point de presse organisé samedi à Bounia, les responsables de la riposte ont reconnu certaines difficultés. Ils ont notamment confirmé l'existence des retards dans les paiements des primes des agents de santé qu'ils attribuent à des contraintes administratives et logistiques. Ils assurent toutefois que des dispositions sont en cours pour régulariser cette situation. Les autorités sanitaires ont également souligné que l'insécurité de certaines zones ainsi que les attaques contre les structures de santé compliquent les interventions des équipes de riposte. Malgré ces défis, elles réaffirment leur engagement à poursuivre les efforts afin de contenir l'épidémie et d'améliorer progressivement les conditions de travail des personnels déployés sur le terrain.
Merci Isaac pour ces précisions et bonne soirée chez vous à Bounia, à Ituri.
Merci Benjamin Moutoumbi et merci également à tous les auditeurs.
Nous vous remercions donc tous les deux, les collègues, pour cet éclairage sur la situation de l'Ituri. Docteur Pierre Akilimali, incident manager adjoint de la riposte contre la maladie à virus Ebola RDC. À la fin de l'émission de ce soir, nos auditeurs espèrent qu'ils sauront exactement les raisons pour lesquelles une nouvelle épidémie frappe la RDC une fois encore. Pourquoi elle touche à ce jour 5 provinces du pays? Pourquoi on a l'impression que la maladie s'aggrave et que le gouvernement ne fait rien? Comment et surtout quand l'actuelle épidémie sera vaincue? Mais avant d'éclairer toutes ces préoccupations, pouvez-vous nous donner une idée de comment la maladie se présente dans les 5 provinces à l'instant où nous parlons? Vous avez entendu notre collègue donner une idée de comment ça se présente dans l'Ituri, mais comment ça se présente de manière globale dans les 5 provinces touchées? Combien de malades, combien de guéris ou encore de décès?
Merci beaucoup, cher ami Guy. À la date du 18 juillet 2026, les résultats que nous avons publiés dans notre site REP montrent que nous avons 2344 cas confirmés, 930 décès confirmés, soit une létalité de 39%, et à ce jour, 46 zones de santé sont touchées dans 5 provinces qui sont le Haut-Uele, l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et la Tchopo. Nous avons enregistré 83 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, dont 67 en Ituri et 16 au Nord-Kivu, et 22 patients guéris au cours des dernières 24 heures. Du point de vue géographique, retenons que l'Ituri demeure l'épicentre de cette épidémie, avec plus de 90% des cas. Les zones de santé de Bounia, Rwampara, Mongwalu, Nizi et Nyankunde concentrent à elles seules 80% des cas depuis le début. Et la priorité à Bounia et Rwampara est donc de réduire rapidement la transmission dans la communauté. Les zones de santé de Nizi et Lita connaissent également une progression très rapide. Elles sont considérées comme le foyer prioritaire car les besoins en lit pourraient fortement augmenter dans les prochaines semaines. À Mongwalu, par exemple, l'épidémie semble se stabiliser, sans commencer à reculer. La mortalité y reste toutefois élevée, principalement en raison de décès communautaires et des retards d'accès aux soins. Nyanya, notamment la zone minière des PK51, constitue un autre foyer majeur. 41 cas y ont été rapportés, mais ce chiffre est probablement sous-estimé. Un renforcement urgent de la riposte est nécessaire pour limiter à notre niveau la propagation vers la Tchopo et le Haut-Uele. Plus au nord de l'Ituri, toutes les zones restent à risque, même celles qui ne rapportent pas encore des cas. Au nord Kivu, la situation est différente. Les alertes sont plus nombreuses et presque toutes les toutes les investiguer et les suivis des contacts dépassent 90% et les taux de positivité restent autour de 5%. Le Sud Kivu a franchi les caps des 42 jours consécutifs dans la 100 nouveaux cas confirmés et ceci représente un signal très encourageant. La transmission y est aujourd'hui maîtrisée. En résumé, la priorité immédiate est de renforcer la détection précoce, les capacités d'isolement, la prise en charge rapide des malades et la surveillance communautaire, particulièrement à Bunia, Rampara, Nizi, Lita et Nyanya. Donc, les actions sont indispensables pour réduire les décès et empêcher l'extension de l'épidémie à d'autres zones et provinces. Mais notons, malgré la complexité du contexte, les avancées majeures ont été enregistrées. Nous avons le suivi des contacts qui est passé de 41% à 85%. Le taux national d'investigation des alertes a atteint environ 80%. La capacité diagnostique au début de l'épidémie, aucun laboratoire n'était dédié, mais actuellement nous avons autour de 12 laboratoires. Et la prise en charge de zéro structure normée, nous sommes à 22 centres de traitement Ebola et centres de transit opérationnels. Et en termes de recherche, notons que nous avons lancé les essais cliniques partenaires et la prophylaxie post-exposition dans le cadre de l'étude EBOPEC. Voilà, en résumé, et ajouter à tous ces aspects un engagement communautaire croissant avec l'implication des chefs de chefferie et des secteurs, mais aussi des autorités politico-administratives.
Donc, voilà, en résumé. Docteur Pierre Kirmali, merci de ce tableau actualisé de la situation. C'est normal qu'on reste un peu concentré là où il y a 90% voire plus de la situation, mais rien sur la Tchopo et le Haut-Ouélé. Qu'est-ce qui se passe là au moment où nous parlons?
La province de Tchopo, actuellement, nous avons cumulé 5 cas confirmés, dont 4 sont décédés et un cas qui a été déclaré guéri et la guérison, la décharge de ces malades a été réalisée sous la supervision de son Excellence Monsieur le Ministre Provincial de la Santé de la Tchopo. Et donc actuellement nous n'avons aucun cas actif à Tchopo pour les derniers, par rapport aux données d'hier, mais nous avons des contacts que nous sommes en train de suivre pour s'assurer qu'aucun d'eux ne présentera la maladie. Quant à la province de Haute-Ouélé, nous avons autour de 16 cas confirmés et 12 cas de décès et nous continuons à suivre les contacts qui y sont actuellement. On peut dire pour Tchopo, donc, les quelques cas que nous avons identifiés sont des cas importés en provenance de la zone de santé de Nyanya. C'est la même zone de santé de Nyanya qui a alimenté la province de Haute-Ouélé. Merci, cher ami.
Alors, en ce moment, il y a certaines critiques qui ne s'arrêtent pas, notamment en termes de traitement du personnel participant à la riposte, le traitement du personnel médical qui ne serait pas payé ou ne serait pas payé comme il se devait, la sous-estimation des données telles que vous venez de les livrer. Il y a des sources qui parlent de plus de 3000 cas confirmés et pas moins de 1000 décès à ce jour. Qu'est-ce que vous pensez de ces autres contre-statistiques?
Nous sommes en train de travailler avec les évidences scientifiques. Ceux qui ont des chiffres, ils peuvent avoir raison, mais les données à notre disposition, selon les méthodes vérifiées, montrent que ces chiffres que nous présentons, c'est ça la réalité. Parce que pour confirmer les cas d'Ebola, nous devons avoir des résultats des laboratoires selon les protocoles. Ceux qui ont des chiffres dépassant ce que nous présentons, ils peuvent avoir leurs sources. Nous respectons l'avis de tout le monde, mais nous pensons que les chiffres que nous présentons sont ceux que nous avons. Mais nous reconnaissons néanmoins que ça peut être sous-estimé parce que certains malades ne sont pas dépistés à différents niveaux, mais ceux qui sont dépistés, c'est ce que nous sommes en train de présenter officiellement.
Docteur
Pierre... En ce qui concerne les ressources humaines...
Mmh. Allez-y.
En ce qui concerne les ressources humaines, le gouvernement reconnaît les préoccupations exprimées par les agents de première ligne engagés dans la riposte contre la maladie à virus Ebola concernant le retard des paiements et la prime. Mais il faut reconnaître que ce retard est justifié par plusieurs facteurs, notamment les recrutements des personnels supplémentaires en dehors du dispositif initial. Certains zones de santé ont recruté les ressources sans tenir compte des normes et informer le niveau national et provincial. les différences des taux de perdièmes ou des primes entre les gouvernements et les partenaires est aussi un autre facteur. Mais enfin, les contraintes logistiques liées à la disponibilité des liquidités qui expliquent le fait qu'on a enregistré certains retards. Mais ceci, le gouvernement a pris les engagements pour que cette situation soit résorbée et que tous les personnels de première ligne soient bien pris en charge parce qu'ils sont exposés à cette maladie et assurer une bonne riposte.
Merci, docteur Pierre Akilimali. Nous restons avec vous dans ces débats, le temps de ventiler la parole à vos autres co-débatteurs de ce soir. Docteur Jean-Paul Ngabutsunde, député national élu de Djougou, dans la province de l'Ituri, ancien médecin, chef de zone de santé des Bambou-Miné, zone de santé située à Djougou, dans la province de l'Ituri, et une des zones de santé en ce moment-ci frappées par l'épidémie d'Ebola. Quelle est votre lecture, quelles sont les données que vous avez et quelle est votre analyse à entendre et les statistiques qui viennent de nous être livrées et toutes les données que vous avez accumulées jusqu'ici sur la maladie.
Merci. Je tiens tout d'abord à féliciter l'équipe de Riposte qui se bat nuit et jour pour qu'aujourd'hui nous puissions observer ces résultats. Les résultats sont encourageants sur terrain. Nous avons vu combien ils se battent, mais toutefois, il y a beaucoup de défis qui restent. Les données présentées par les professeurs Akili sont des données épidémiologiques, vérifiables, mais toutefois, comme la société civile l'avait bien dit, il y a beaucoup de cas non dépistés qui sont au sein de la communauté, qui aujourd'hui, on enregistre des cas de décès sans qu'on puisse faire qu'on puisse les dépister. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'allons pas directement nous réjouir, soit disant que nous sommes en train de bien évoluer, non. Parce que je pense que ceux qui sont en Ituri aujourd'hui sont conscients, sont en train d'observer des mouvements anormaux aujourd'hui au sein de villages. Nous enregistrons des cas de décès de manière anormale aujourd'hui de village. Vous arrivez dans des centres périphériques, nous enregistrons des cas de décès de manière anormale, et ce qui montre qu'il y a un problème au sein de la communauté.
Quand vous dites décès non enregistrés ou des décès anormaux, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, est-ce que ces décès sont-ils prouvés liés au virus Ebola? Si oui, comment et pourquoi, selon vous, ces cas sont bien répertoriés par d'autres sources, notamment les populations, les communautés locales, et ne seraient pas ou ne le sont pas répertoriés par les services habilités.
Tous les cas de décès enregistrés au sein de la communauté ne sont pas dépistés. Mmh. Ils ne sont pas prélevés. Il n'y a pas de prélèvement qui se font sur ces différents corps sans vie.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a?
Et voilà, justement, c'est lié justement à un problème de l'approche. Et nous sommes en train d'insister sur le fait que l'équipe de Riposte devra revoir sa stratégie actuellement. Pourquoi? Parce que, si vous voyez avec nous, l'épidémie est en train de quitter la ville et en train de rejoindre la périphérie. Auparavant, c'était les zones de santé urbaines qui étaient touchées. Et actuellement, les zones de santé périphériques sont en train d'être touchées. Et ce qui fait que on doit renforcer la stratégie zonale pourvu que toutes les aires de santé soient désormais impliquées dans la riposte. Effectivement, il y a des zones où vous retrouvez trois aires de santé qui sont touchées, mais toutefois, on a l'obligation d'impliquer les autres aires de santé qui ne sont pas encore touchées dans l'épidémie, et cela nous permettra de notifier tous les cas de décès qui se font. Qui se passe au sein de la communauté et qu'on soit à mesure également de prélever sur tous ces cas, sur tous ces corps et à la fin on pourra avoir des données précises de ce qui se passe au sein de la communauté.
Honorable docteur Jean-Paul Ngabou, comment vous expliquez que les stratégies médicales qui sont, nous l'imaginons, connues en cas de maladie, en cas d'épidémie, en cas de toute situation liée à la santé, le protocole doit en principe être connu. Comment ça se fait que ces choses qui doivent être connues, qui doivent être basiques, ne sont pas mises en pratique aussitôt un problème de santé posé, aussitôt un problème d'Ebola posé, connu en RDC 16 fois déjà. Et aujourd'hui, on se retrouve en train de faire comme si on découvrait tout.
L'approche mise en place par l'équipe de Riposte donne beaucoup plus de force pour les zones urbaines. Si vous voyez l'ensemble de centres de traitement qui se retrouvent aujourd'hui dans la province de l'Ituri, il y a plus de 80% des centres de traitement qui sont aujourd'hui installés au sein de la ville. Et effectivement, au départ, il y avait beaucoup de cas au centre-ville, mais actuellement, nous enregistrons beaucoup de cas également dans les zones de santé périphérique. Raison pour laquelle, au départ, on n'avait pas donné beaucoup plus de moyens pour les zones de santé à appuyer l'épidémie. C'est comme ça que maintenant, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour l'équipe qu'ils puissent retourner vers les zones de santé parce que c'est l'unique moyen pour nous de contenir l'épidémie déjà au niveau de la base. Aujourd'hui, si vous voyez très bien, nous avons l'approche zonale qui se limite par aujourd'hui des réunions de coordination au niveau du bureau central. Ça se limite par la gestion des centres de traitement qui se trouvent au niveau de l'HGR ou des centres de transit au niveau de l'HGR. Mais nous voulons que l'équipe des ripostes puisse aller avec cet appui jusqu'au niveau des aires de santé où les IT devront être impliqués parce que les IT ont l'ensemble des organes autour d'eux. C'est avec les IT que nous retrouvons l'ERECO. L'ERECO gère les IT, l'ERECO gère les leaders communautaires. Et en mettant l'IT au centre de la gestion de cette épidémie, nous aurons la possibilité de contrôler tout ce qui se passe au sein de la communauté. Lorsqu'il y a des cas de décès, lorsqu'il y a des cas de personnes qui présentent des symptômes qui sont douteux, ça permet que l'ERECO puisse notifier les cas, puisse aller informer l'IT, afin que l'IT puisse notifier les cas, et à la fin, lorsqu'on estime que c'est un cas qui peut probablement être un cas Ebola, l'IT a la possibilité de les référer vers le centre de transit. Ça, c'est l'une des approches qui, aujourd'hui, peut nous permettre de contenir l'épidémie. Outre cela, nous insistons également sur la sensibilisation. Si vous voyez très bien, il y a des rumeurs aujourd'hui au sein de la communauté. Et ce sont ces rumeurs qui ont à la base aujourd'hui de cette résistance. Nous insistons au fait que dans la stratégie de riposte, il faudra qu'on mette beaucoup plus d'accent dans la sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons des sonnettes d'alarme que nous recevons de la part de la communauté. Ça nous provient du terrain. Il y a des radios locales qui s'adonnent aux sensibilisations. Malheureusement, aujourd'hui, je vous informe que la plupart de ces radios ne sont pas prises en charge.
Docteur Jean-Paul Ngabou, vous avez une double casquette, non seulement dans cette émission, mais aussi dans votre expérience dans ce sujet. Vous avez été chef de zone de santé. Aujourd'hui, vous êtes politique. Vous êtes donc un officiel. Ça fait 2 mois quand même que nous sommes dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous qui avez la possibilité et l'expertise nécessaire en tant que chef de ancien chef de zone de santé, médecin et donc élu officiel à l'Assemblée nationale, n'avez pas pu proposer ces solutions beaucoup plus rapidement en étant à la fois élu donc auprès de la population mais en étant aussi officiel pouvant proposer des idées?
Les idées sont mises en place déjà et nous l'avons déjà présenté au niveau central. Et d'ici là, il y aura une équipe de députés en commission qui pourront arriver en province pour aller appuyer l'équipe de riposte. Donc là, je vais vous présenter les quelques stratégies qu'on doit encore ajouter sur ce qui est mis en place.
On reviendra dans les détails tout à l'heure avec les stratégies pour que justement vous puissiez les détailler un peu plus et les confronter à ce qui a déjà été utilisé ici pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui n'a pas marché et comment vos idées peuvent être s'avérer peut-être les meilleures à ce stade de la maladie. Le temps de donner la parole à Dr Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique et expert principal en santé et chef de projet à la Banque mondiale. Il a participé activement à la gestion de la 19e épidémie de la maladie à virus Ebola et la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Docteur Mouvoudi, depuis l'apparition de cet épisode, le 17e d'Ebola, vous êtes déjà intervenu sur ces questions et vous avez prodigué, selon vous, les éclairages qu'il fallait. À ce stade, pourquoi, selon vous, les choses ont l'impression de s'aggraver ou alors de ne pas résoudre le problème au niveau de la province de l'Ituri? On a dépassé plusieurs centaines de cas confirmés et plusieurs centaines de cas de décès aussi, alors que tout le monde espérait qu'en quelques semaines, on aurait certainement, avec l'expérience accumulée jusqu'ici, résolu le problème rapidement.
Merci beaucoup, monsieur Dona Matimba. Je vais juste corriger un petit lapsus. Hein, donc, pour aller de 19e épidémie, c'est de la 9e. C'est vrai qu'on a eu à gérer plusieurs épidémies de la maladie à virus Ebola. Mais bon, voilà. Donc, c'est encore une fois de plus revenir sur la pertinence de votre question. D'abord, premièrement, cher Dona, toute ma compassion à nos populations affectées hein, aujourd'hui par cette épidémie. Lorsqu'on parle de plus de 600 décès, il faut s'imaginer que c'est 3 crashs de Airbus au même moment. Donc imaginez-vous l'ampleur de la situation, donc nos compassions à ces populations des provinces affectées. Mais aussi, il faudra reconnaître ici, encourager l'équipe de Riposte. Ici, je salue le travail que venait d'étaler le professeur Akili Mali et toute son équipe, et tous ceux-là qui sont à la ligne de front et qui se battent nuit et jour pour arriver à mettre fin à la propagation de cette maladie. Alors, je pense que très rapidement, en reliant ce que les deux collègues venaient de dire, moi, je me placerai sur 3 considérations qui, en fait, nous renvoient d'abord à la pertinence des résultats lorsqu'on est en santé publique. En santé publique, cher Dona, une chose, c'est de se dire, on est en train de faire des efforts. Une autre chose, c'est de dire, est-ce que nos efforts donnent des résultats escomptés? Et surtout, là, maintenant, nous parlons des décès, ça veut dire, nous parlons des conséquences irréversibles. Nous parlons, n'est-ce pas, d'une maladie qui augmente en termes d'espace géographique, mais aussi en termes de nombre. Ça veut dire, en tant que médecin de santé publique, les vraies questions à se poser, c'est qu'est-ce que nous faisons pour arrêter le nombre de décès qui augmente et qu'est-ce que nous faisons pour casser la chaîne de la transmission et de la propagation de la maladie. Je crois que ça, c'est très important. Et c'est là, justement, que je vais juste revenir sur 2 points au-delà des efforts qui sont en train d'être mis en place. C'est d'abord l'anticipation. Alors, rappelez-vous que, M. Donat, lorsqu'on a commencé la riposte à cette épidémie, nous étions encore dans l'Ituri. On savait qu'on était dans une situation, dans un contexte très, très complexe, marqué par la guerre, marqué par les mouvements intenses des populations, n'est-ce pas, dans un contexte de rareté de ressources où, déjà, la province n'était pas très bien préparée. Ce n'était pas un secret, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler, mais on le savait dès le moment où on a commencé la riposte. Et donc, le grand mot que j'avais conseillé à l'époque, c'était « attention, anticipons déjà sur le fait que cette épidémie risque d'aller très vite, d'une part, mais d'autre part qu'il fallait travailler dans une vision de renforcer le partenariat communautaire et casser justement la chaîne de transmission, y compris hein, l'inclusion des autres piliers de la riposte comme les laboratoires et tout. Donc je crois que l'incident manager venait de le dire, en mentionnant justement tous ces efforts qui ont été faits, mais là où je vais insister, c'est qu'il faudra premièrement anticiper. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, nous sommes dans ces provinces. Ça veut dire que la province du Sankuru, la province de la Chuapa, la province du Bazuele, de la Mongala, de la province du Maniema, la province de Kinshasa, sont des entités qui sont déjà à risque et il faudra anticiper pour qu'on n'arrive pas à cela. Ça veut dire, en d'autres termes, pour terminer sur ce premier point, il est important de renforcer l'efficacité de toutes les interventions actuelles au vu des résultats que nous avons, qui montrent justement que la maladie continue à se propager, mais qui montrent aussi qu'on a encore des décès, et ça devra vraiment nous interpeller. J'ai dit nous, parce que nous sommes tous concernés par la situation. Il n'y a pas quelqu'un qui se bat, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de riposter, les autres sont là pour critiquer. Donc nous parlons du gouvernement, nous parlons des partenaires. Alors, deuxième point, sur les questions d'économie de la santé. Alors, monsieur Dona, il faudra ici déjà saluer le leadership du chef de l'État. Vous savez, dès le début de l'épidémie, il faut le dire à haute voix que sous l'impulsion du chef de l'État, 50 millions de dollars avaient été donnés pour cette riposte par le gouvernement. Très rapidement, afin justement de faire face à toutes ces questions qu'on venait d'évoquer. Et là, c'est important, c'est très important qu'au-delà de ce que les autres bailleurs ont donné, notamment la Banque mondiale, vous avez mentionné, ainsi de suite, de s'assurer qu'on est en train de flécher ces ressources sur les priorités. Si la priorité est la motivation des ressources humaines de première ligne, il faut y aller. Si la priorité est de pouvoir renforcer l'engagement communautaire, il faut y aller. Les problématiques que nous avons eues depuis la nuit des temps sur les questions de riposte contre les maladies à virus Ebola, ce sont les problématiques qui sont principalement liées aux efficiences allocatives. Comment on alloue les ressources sur les piliers qui vont rapidement diminuer la propagation de la maladie. Et je pense que ce qu'on a vu récemment à travers les médias, ce qu'on a lu aussi dans les sites web, je pense que le professeur Akilimal venait de le dire, qu'on attende que les personnels aillent en grève pour rapidement se dire mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir les payer. Le temps que nous perdons justement à réfléchir sur les mécanismes de mettre fin à la guerre, aux ressources humaines qui sont affectées en première ligne du combat, mais ce temps-là, ça coûte des vies humaines. Donc il faudra vraiment mettre un accent sur ça. Donc ça veut dire comment on alloue les ressources locales, les ressources extérieures, et surtout ici saluer le leadership du gouvernement d'avoir très rapidement mis à la disposition des équipes de riposte les premières ressources et d'autres partenaires dont la Banque mondiale avait mis la main à la poche. Et troisièmement, pour terminer sur ce point, c'est le partenariat avec la communauté. Monsieur Donat, je n'ai cessé de le dire, il n'y a aucune riposte de la maladie à virus Ebola, il n'y a aucune riposte à une pandémie qu'on peut réussir sans engagement communautaire. On le savait, on le sait depuis très longtemps. Et ici, il faudra déjà se mettre en tête que quand nous sommes dans un contexte comme celui-là, le type de sensibilisation, le type de communication doit être adapté. Il ne suffit pas de passer des messages à la télévision, à la radio, mais il faut plus privilégier ce qu'on appelle une communication interpersonnelle. Quand vous suivez les communautés, elles ont des questions pertinentes qu'elles posent. Elles se plaignent parfois sur des questions sur lesquelles elles ont besoin de réponses. Donc, il faut privilégier les causeries communautaires, la communication interpersonnelle. Il faut se rapprocher des leaders d'opinion, écouter leur compréhension, leur perception de la maladie, afin d'apporter des réponses idoines. Je crois que par rapport à la question de la résistance communautaire, on devra rapidement adapter, n'est-ce pas, l'approche de communication et pour moi, quitter d'une approche tout à fait de mobilisation de masse à une communication de proximité pour justement rencontrer aussi les questions, rencontrer les doutes des populations et essayer de les résoudre. Voilà en trois points très rapidement.
Merci.
Ce que je peux dire sur les considérations de santé publique, d'économie de la santé et surtout chuter avec le partenariat communautaire.
Merci docteur Mouvoudi. On reviendra sur peut-être une ou deux idées que vous venez d'évoquer pour l'éclairer en détail comme conclusion de l'émission afin que les gens comprennent vraiment exactement ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent le faire pour donner une efficacité assurée. Nous revenons à Dr Pierre Akilimali et pour vous donner une deuxième fois la parole, de réagir à ce qui vous restait encore ou à ce qui a été évoqué tout à l'heure par vos deux co-débatteurs, nous allons quand même déjà ouvrir notre standard pour laisser parler la population. Docteur Pierre Akilimali, nous allons vous inviter à être attentif à l'appel de cet auditeur de Mahagui. Ensuite, vous allez prendre en charge son intervention ainsi que les autres commentaires sur lesquels vous voulez rebondir.
Emmanuel Alipenda Djaberonga depuis Mahagui, à province de l'Ituri. La riposte contre la maladie à virus Ebola semble être mitigée pour ma part. À ce jour, s'il y a plus de 2000 cas confirmés et plus de 800 décès répartis dans cinq provinces, cette statistique semble encore alarmante. Les défis auxquels sont confrontés les équipes de riposte sont la résistance de certaines personnes à croire même à l'existence de cette maladie malgré de nombreux décès déjà signalés. Pour ce qui concerne la province de l'Ituri, le défi réel reste de la sensibilisation et la fourniture de moyens conséquents à la riposte. Par ailleurs, nous saluons l'installation de laboratoires mobiles pouvant permettre de diagnostiquer les cas probables dans un hôpital général de référence du territoire de Mahagui, précisément à Logo, centre de riposte. Aujourd'hui même, car avant, les résultats devraient provenir de Kinshasa, Bunia ou Aru, rendra difficile la prise en charge des patients.
Pierre Akilimali.
Bien, merci beaucoup. Je salue tous les co-débatteurs et je veux juste dire que tout ce que nos collègues, le docteur Michel Mouvoudi et l'honorable docteur Ngabou, ce qu'ils ont présenté comme préoccupation et suggestion, nous épousons tout ce qu'ils ont dit et on est vraiment en parfaite harmonie avec ce qu'ils disent et nous sommes d'ailleurs en train d'appliquer progressivement ce qu'ils viennent de présenter comme suggestion. Il faut noter une chose, c'est que quelques facteurs expliquent la propagation rapide au cours de cette épidémie. Ça, j'aimerais que nos auditeurs puissent retenir ça, notamment la mobilité importante des populations et les mouvements transfrontalières. Vous savez, dans cette province, nous avons une exploitation importante des mines, notamment l'or. On est dans des zones urbaines. Ceci est un peu un facteur qui différencie par rapport aux épidémies précédentes. Il y a l'accès difficile à certaines zones affectées, notamment l'insécurité avec le groupe armé. Ceci handicape même le système de listage exhaustif des contacts ainsi que leur suivi. Vous avez suivi dernièrement les attaques au niveau de l'hôpital de Nyankoundé, vous avez suivi au PK51 à Nyanya, vous avez suivi à Mongwalu et au début il y avait à Rampara. Cet aspect des contextes sécuritaires handicape et favorise une propagation rapide de la maladie. Et il faut aussi noter que nous avons une insuffisance de l'adhésion aux mesures de prévention. C'est à ce sujet que je voudrais épouser ce que notre collègue honorable Dr Ngabou qui est en train de dire. Dès le début, nous avons changé l'approche de cette riposte en adoptant cette approche que nous appelons l'approche zonale qui décentralise la riposte au niveau communautaire. Et ceci s'est fait progressivement. Alors, en ce qui concerne ce que l'auditeur vient de présenter comme préoccupation, nous sommes d'avis et nous comprenons ce qu'il a dit et nous travaillons pour renforcer les mesures et pour qu'on ait des résultats. On renverse la situation et la tendance pour les prochains jours. Voilà ce que je peux dire à ce stade.
Nous revenons donc à vous tout à l'heure pour les dernières conclusions de cette émission. Docteur Jean-Paul Ngabou, pour vous, cet auditeur de Kinshasa.
Dédoné Chilombo de Kinshasa. À mon humble avis, les leaders communautaires, les chefs coutumiers, les responsables religieux, les médias ainsi que la société civile doivent être davantage associés afin de diffuser des informations fiables et de lutter efficacement contre la désinformation. En tant qu'assistant vétérinaire spécialiste en santé et production animale, je rappelle qu'Ebola est une maladie zoonotique, c'est-à-dire une maladie qui peut être liée aux interactions entre les animaux, l'homme et son environnement. Sa prévention doit donc s'inscrire dans l'approche une seule santé qui favorise une collaboration étroite entre le secteur de la santé humaine, de la santé animale et d'environnement. C'est cette approche intégrée qui permettra de mieux prévenir les futures épidémies. Au-delà du financement, quelles mesures concrètes seront mises en œuvre pour restaurer durablement la confiance des populations et assurer leur participation active à la lutte contre Ebola, en complément des actions que nous avons évoquées?
Docteur Jean-Paul Ngabou.
Effectivement, l'auditeur a pleinement raison. Et la sensibilisation reste le pilier le plus important qu'il faut appuyer. Et pour votre information, les autorités locales y sont déjà impliquées. mais également nous recommandons aux autres leaders communautaires qui traînent encore le pas de le faire, parce que la maladie existe et on n'a pas de choix. Nous avons tous l'obligation de nous mettre, de nous battre pour que nous puissions arrêter cette chaîne de transmission. C'est ça le grand message que je voudrais adresser à ces leaders, à nos leaders communautaires, mais également aux différents chefs locaux et aux autorités politico-administratives. Outre cela, on voulait également insister sur le fait que, bon, au niveau du gouvernement, nous allons nous battre pour que cela soit possible, mais également à l'équipe du Riposte, et il y a deux défis pour lesquels il faut vite trouver des solutions. Nous avons insisté sur l'approche zonale, nous avons insisté sur la formation de personnel, et ça il faut le faire, parce qu'il faut préparer les aires de santé qui ne sont pas encore touchées, il ne faut pas que ces aires de santé soient touchées. Il faut construire les centres de traitement dans des zones où on en a besoin. Aujourd'hui, la zone des bambous a besoin d'un centre de traitement. Il faut les construire. Il y a des zones de santé qui ont besoin des centres de transit normés. Aujourd'hui, vous trouvez la zone de Kilo qui a besoin des centres de transit. Malheureusement, vous y arrivez, vous ne trouvez presque rien, mais finalement, on les nomme comme ça de transit, mais quand vous arrivez sur le terrain, il n'y a pratiquement rien. Donc, nous demandons aux partenaires du gouvernement, venez appuyer également ces zones qui ont besoin des centres de transit normés. Voilà, là, je vois la zone de santé de Damas, mais également la zone de Mangala. Outre cela, il y a des zones de santé qui ont bénéficié de ces centres de traitement. Malheureusement, ces zones de santé, ces centres de traitement ne sont pas, ont de faibles capacités d'accueil. Là, je cite la zone de santé de Nizi, qui devrait être appuyée. Ça, c'est un élément important. Outre cela, il y a également un nombre jusque-là très faible, très réduit, des équipes pour l'enterrement digne et sécurisé. Vous arrivez par exemple à Nice, vous retrouvez deux équipes seulement qui doivent s'occuper à enterrer pour une seule journée plus de 10-15 corps. Imaginez-vous, ça devient assez lourd, c'est vraiment une demande pour également la population. C'est parmi des facteurs qui entraînent la confiance entre et l'équipe de Riposte, ou alors les corps soignants, et la communauté.
Merci, docteur Jean-Paul Ngabou. Vous aurez encore un dernier instant de parole au moment de la clôture. Docteur Michel Mouvoudi, pour vous, nous allons écouter cet auditeur qui nous appelle du Nord Kivu à Butembo.
Maître Kambe Resiliwa Merveille depuis la ville de Butembo. La propagation rapide est due au manque de dispositifs sanitaires, à des barrières et à la passivité d'agents commis à se contenter seulement à demander des taxes, laissant l'aspect sanitaire à côté. Notre problème, c'est la mauvaise gestion du personnel soignant sur le terrain au détriment des spécialistes qui reçoivent un bon traitement que le personnel traitant. Le manque d'intervention du comité local ou des chefs de cellules, des quartiers, chefs de confession religieuse, fragilise les mécanismes de lutte contre la maladie, étant donné qu'ils ne sont pas directement impliqués. Est-il possible d'éradiquer la maladie sans l'implication du comité local, ou faudra-t-il créer un comité local de santé pour permettre à la population de comprendre cette situation sans pour autant passer que c'est une maladie que la population considère actuellement comme un business pour ceux qui les gèrent?
Docteur Mouvoudi.
Oui, très rapidement, monsieur Donat. Vous savez, l'intervention de notre collègue du Nord Kivu me rappelle ce qui s'était passé en 2018 dans la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola. J'étais au cœur de cette riposte et je peux vous dire clairement que lorsque nous avons basculé la riposte en mettant en avant les communautés locales, les experts locaux, on a constaté justement qu'il y avait une embellie de la riposte. Et ce qu'il dit est vrai. Et je pense que le professeur Akilma a effleuré cela dans son narratif. Il faudra absolument mettre en avant le leadership du gouvernement, le leadership de la province et surtout mettre en avant les prestataires locaux ainsi que les communautés locales. C'est très important. Lorsqu'on parle de l'approche zonale, c'est déjà se rendre en tête que la zone, c'est vraiment des populations locales, ce sont les institutions de participation locale, de gestion locale, et donc ce qu'il est en train de dire est tout à fait vrai. Mais ça doit se matérialiser dans le concret, en termes de pouvoir de gestion, en termes de participation à la décision, mais aussi en termes de ressources qu'on alloue. Ça, c'est le premier volet. Et j'aimerais vraiment que ces changements de paradigme puissent accélérer pour qu'on mette en avant, n'est-ce pas, les prestataires locaux, qu'on mette en avant les communautés locales, parce que finalement, il faut dire que ce sont ces gens-là qui sont affectés et donc ils ne doivent pas être spectateurs, mais plutôt acteurs. Mais de l'autre côté, il faudra bien identifier les besoins d'expertise exogène. Lorsque les gens quittent Kinshasa, lorsque les gens quittent d'autres pays pour aller aider les populations qui sont dans les provinces affectées, il faut bien dire qu'est-ce qu'on va faire et s'assurer que lorsqu'on importe une expertise, cette expertise manque réellement dans les provinces touchées. De mon expérience, Monsieur Donna, je peux vous dire la vérité, trois quarts des expériences qu'on cherche, ben vous les avez justement dans ces provinces. Et avec les experts congolais qui ont participé, comme vous l'avez très bien dit, à d'autres épidémies de la maladie avec Ebola, ben on peut faire un bloc national capable de pouvoir mettre fin à la propagation de cette maladie à virus Ebola. Donc, totalement d'accord avec ce que notre collègue vient de dire. Renforçons cela dans la matérialisation, notamment par le pouvoir gestionnaire, le pouvoir décisionnel et le pouvoir de communication.
Docteur Mouvoudi, cette émission ne va pas vider toute la problématique de cet épisode de la maladie à virus Ebola qui est encore en cours. Nous allons garder donc notre habitude de faire le point de la situation et en ce moment, nous devons boucler l'édition de ce soir et nous allons y aller justement avec vous, Docteur Mouvoudi. Vous êtes spécialiste en santé publique et expert principal en santé et chef de projet à la Banque mondiale. Vous avez activement participé à la gestion de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola et de la pandémie de la Covid-19 dans ce pays. Alors, pour vraiment aller comme la stratégie efficace que vous avez mentionnée dans votre intervention, il est ici question d'éclairer toutes les zones d'ombre, mais surtout de répondre à deux préoccupations au cours de cette émission. En très peu de mots et de manière très simple, docteur Mouvoudi, comment, à partir de ce soir, toutes les équipes et les parties prenantes peuvent faire pour arrêter et casser la propagation de la maladie à virus Ebola en RDC?
Alors, très rapidement, Monsieur Donna, je ne vous ai pas bien suivi, mais j'espère avoir capté bien l'essentiel de votre question. Donc, premier élément, c'est d'abord l'anticipation. Lorsque vous avez une province touchée comme le Haut-Ouélé, la Tchopo, rapidement, pensez à toutes les provinces limitrophes. Donc, ça veut dire ici faire la cartographie sur les provinces à risque qui ont des contacts avec les provinces touchées et anticiper déjà dans ces provinces pour que la maladie ne puisse pas y aller. Donc ça va demander justement de travailler avec les autres secteurs pour mettre fin justement à la propagation. Donc très important, le maître mot c'est l'anticipation. Deuxièmement, multisectorialité. Il ne faut pas médicaliser cette riposte, n'est-ce pas? Quand vous suivez justement tous ceux qui ont parlé attentivement, vous vous rendez compte qu'en fait les autres secteurs doivent accompagner. Le secteur de la communication, de la sécurité, le secteur qui s'occupe des actions humanitaires. N'oubliez pas que nous avons des camps de réfugiés dans ces provinces où vous avez des promiscuités incroyables qui peuvent occasionner la propagation de la maladie. Donc l'approche doit être multisectorielle, faire impliquer au maximum les autres secteurs pour arriver à définir la part de chaque secteur dans la réponse. Et troisièmement, je crois qu'il faudra avoir une approche réflexive. Ne récitons pas ce qu'on fait depuis très longtemps, mais chaque contexte a ses spécificités, chaque population a sa culture, chaque population comprend de sa façon, donc adapter chaque intervention au contexte et à la sociologie de la province. D'où l'implication des anthropologues, l'implication des psychologues. Donc essayons d'être sur des approches taillées sur mesure, avec les ressources aujourd'hui qui sont mobilisées, je pense qu'en les gérant correctement, ben nous pouvons mettre fin à la propagation de cette maladie et diminuer justement ce fardeau sanitaire et même ce fardeau économique qui pèse sur nos populations du reste en insécurité. Voilà ce que je peux donner comme conseil et on pourra développer bien tous ces points dans les prochaines émissions.
Merci beaucoup docteur Michel Mouvoudier. Nous espérons donc vous avoir les prochaines fois pour continuer à sensibiliser autour de cette maladie et les autres problèmes de santé qui pourront se poser à un moment ou à un autre. Jean-Paul Ngabou, Tsoundé, député national élu de Djougou dans la province de l'Ituri, ancien médecin chef de zone de santé des Bambou-Miné, zone de santé située à Djougou dans la province de l'Ituri et une des zones actuellement frappées par l'actuelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Vous le disiez déjà tout à l'heure, les points sur lesquels vous vouliez insister pour que on arrive concrètement à neutraliser l'épidémie actuelle à virus Ebola en République démocratique du Congo et surtout dans la province de l'Ituri où elle est plus importante. En une phrase, en un mot, en une minute, quels sont les autres conseils que vous ajouterez?
Le plus grand conseil que je voudrais demander présentement à l'équipe, c'est de vite trouver solution à ces problèmes d'impayement de personnel. Parce que c'est l'un des éléments clés qui pourra motiver le personnel qui sont à la première ligne à train de lutter contre cette maladie. Mais également, dispatcher tout le partenaire dans les différentes zones de santé pour appuyer cette approche zonale. Et à la fin, je demande à tous les leaders communautaires, à tous les chefs locaux, des chefs politico-administratifs, de s'impliquer pour qu'ensemble, nous puissions être en mesure d'arrêter cette chaîne de transmission de cette pandémie aujourd'hui qui est en train de frapper notre province.
Merci beaucoup pour cette faveur que vous nous avez faite de venir dans nos studios et de partager avec nous, docteur Jean-Paul Ngabou. Et nous terminons par Pierre Akilimali, incident manager adjoint de la riposte contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Docteur Pierre Akilimali, les problèmes sont plus ou moins identifiés, vous les avez mentionnés, d'autres l'ont complété, des problèmes de mobilité importantes, difficultés d'accès dans certaines zones de santé, collaboration qui n'est pas encore totalement au beau fixe entre les différentes parties prenantes qui est à parfaire, difficultés financières, mais il y a déjà les moyens qui tombent ça et là, nous les avons mentionnés à cette émission, des meilleurs dispositifs et stratégies efficaces à mettre en place et enfin la sensibilisation avec les populations. Comment concrètement vous allez agir sur toutes ces préoccupations de manière très concrète, mais en une minute et demie, comment à ce soir la riposte espère renverser la tendance et amener à la guérison et à la victoire finale contre Ebola?
Merci, nous voulons tous avoir cette victoire. Retenons que la lutte contre Ebola demeure une responsabilité collective. La maîtrise de cette épidémie dépend de l'engagement de tous, autorités, professionnels de santé, partenaires, leaders communautaires, médias et populations. Chaque alerte signalée à temps, chaque contact suivi et chaque mesure de prévention respectée contribue à sauver des vies et à interrompre la chaîne de transmission. Nous avons, nous, développé des mécanismes que nous avons appliqués et qui sont en cours d'être améliorés. Notamment, nous voulons consolider l'engagement communautaire et la communication sur les risques. Nous allons intensifier donc cette surveillance épidémiologique et la recherche des cas actifs et renforcer l'investigation et le suivi des contacts. Nous pensons aussi renforcer la coordination entre les gouvernements, les partenaires, les autorités locales, les leaders communautaires et les médias. Et enfin, garantir la disponibilité des ressources humaines, logistiques et financières pour soutenir durablement la riposte. Nous sommes ensemble, nous avons des approches que nous allons utiliser, mais nous sommes réceptifs et disponibles à recevoir tous les conseils et avis pour qu'on puisse changer la tendance, renverser la courbe et que bientôt nous puissions célébrer la victoire sur Ebola.
Merci à tous trois, chers experts, chers médecins, pour les échanges de ce soir. Merci à Paul Badianyama, Guy Maté, Benjamin Moudoumbi et tous les collègues du desk numérique. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais de ce soir, c'est donc terminé. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.